Voilà. Bon, eh bien, je vous propose de commencer. Je vais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous un vrai bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle série Écouter la musique autrement, donc proposée par Écoute Classique et Radio France. Et pour cette saison 2023-2024, on a trois rendez-vous ensemble. Aujourd'hui, c'est le tout premier. Et nous nous intéressons à la Totten Dance, la danse macabre de Franz Liszt, qui sera donc donnée la semaine prochaine en concert dans l'auditorium de Radio France. Certains d'entre vous ont peut-être pris leur place pour ce concert. Vous pourrez également l'écouter sur France Musique, puisque ce concert sera diffusé en direct. Je vous rappelle la date, c'est jeudi prochain, le 23 novembre à 20h. 23 novembre à 20h. Donc, soit vous êtes dans la salle de concert, soit vous êtes sur France Musique. Et si jamais vous n'êtes pas disponible ce soir-là pour l'écouter sur France Musique, sachez que France Musique propose un replay pendant 30 jours. Donc vous aurez non seulement le replay de cette conférence pendant 30 jours et le replay du concert pendant 30 jours. Donc vous pouvez vraiment profiter à la fois de cette conférence et du concert et puis de vraiment entrer dans cette œuvre de la Totten Dance puisque vous aurez ainsi des clés d'écoute. Alors, pour vous présenter cette Totten Dance, cette composition pour piano et orchestre, je vais commencer par vous redonner quelques informations rapides sur ce compositeur et je vais parler aussi d'Hector Berlioz. Vous verrez pourquoi. Et nous allons surtout écouter de nombreux extraits musicaux commentés. L'idée vraiment de ces rencontres, en vous faisant écouter des extraits musicaux, c'est de vous donner des points de repère musicaux dans les oreilles pour que vous puissiez profiter au mieux de cette composition. Et encore une fois, pas besoin d'être musicien, de savoir lire la musique, un tout petit peu d'attention. Et je vais vous donner des clés d'écoute qui vont vous permettre de vraiment pouvoir en profiter. Bonsoir Bruxelles. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez participer aussi. De temps en temps, on va faire des jeux d'écoute ensemble et vous pourrez écrire dans le chat. Rien de difficile, hein, avec un tout petit peu de concentration, vous allez parfaitement pouvoir répondre. Et entre donc ces différents extraits musicaux, nous allons parler du piano, puisque c'est une composition pour piano, de cet instrument, et nous allons parler des frères Erhard. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est une marque de piano, mais à l'époque, ce sont surtout deux frères qui fabriquent des pianos et qui jouent un rôle essentiel à la fois pour Franz Liszt et à la fois dans l'histoire du piano, et j'aimerais vraiment vous en parler, puisque ça explique pourquoi le piano prend une telle importance à ce moment-là de l'histoire. On va donc alterner des extraits musicaux commentés, des éléments de biographie et des anecdotes historiques. Voilà notre programme, et s'il vous plaît, le chat, n'hésitez pas, il est à votre disposition. Pour commencer, quelques mots sur Franz Liszt. Et la toute première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que pour nous, bien sûr, Franz Liszt, c'est un compositeur, mais de son vivant, il a eu beaucoup de mal à s'imposer en tant que compositeur, puisqu'on voyait en lui d'abord et avant tout un pianiste virtuose et certainement le plus brillant de sa génération. On va en reparler. Il est né le 22 octobre 1811. Il est de la même génération que Frédéric Chopin et Robert Schumann, qui sont nés un an avant lui, en 1810. Et également la même génération que Richard Wagner ou Giuseppe Verdi, qui eux sont nés en 1813. Vous pouvez retenir que Chopin, Schumann, Wagner, Verdi et donc Liszt sont tous de la même génération. Il naît dans la ville de Reading, qui en 1811 se trouve en Hongrie. Cette ville est depuis 1920 rattachée à l'Autriche, mais à l'époque de Franz Liszt, elle est bien hongroise. Et ce pays va toujours tenir une place importante dans la vie de Franz Liszt, même si finalement il va y passer que très peu de temps. Pour mémoire, ses célèbres rhapsodies hongroises sont en bel hommage à son pays d'origine. Ce qui est intéressant pour nous, et surtout pour Franz Liszt, c'est que la situation géographique de cette ville, et surtout les diverses populations qu'on y trouve alors, ont une grande influence sur le compositeur. Cette population, elle est majoritairement germanophone. Le grand-père aussi bien que le père de Franz Liszt utilisent l'allemand comme langue usuelle et on enseigne à l'école communale où est allé le petit Franz en allemand. Dans cette ville de Reading, on trouve également une aristocratie hongroise, puisque cette ville est alors en Hongrie. Il y a également des musiciens tziganes et une minorité croate. Tout cet environnement, toutes ces influences expliquent en partie les goûts musicaux de Franz Liszt. Il est absolument fasciné par la musique tzigane, mais surtout par cette figure du tzigane, ce symbole du nomade sans patrie. Franz Liszt aura beaucoup de mal pendant toute sa vie à se poser quelque part. Il sera sans cesse en mouvement. Et aussi par cette figure du tzigane musicien, le virtuose de son instrument. Dans une lettre du 2 octobre 1846, il se targue d'être, je le cite, le premier tzigane de Hongrie. Le premier tzigane de Hongrie. C'est son père qui lui donne ses premières leçons de piano. Son père était également un excellent pianiste. Et très tôt, le petit Franz se révèle avec des dons extraordinaires pour cet instrument. Ce qui n'est pas rare dans les compositeurs. Puisqu'on dit, cela très souvent de beaucoup de compositeurs, comme si c'était une exception. Sachez que c'est très courant pour les compositeurs de musique d'être surdoués dans un instrument. Et donc, le petit Franz se révèle très tôt des dons extraordinaires pour cet instrument. Grâce à son talent, il va obtenir une bourse qui lui permet d'aller étudier dans la grande ville de Vienne. Il a 10 ans et il est l'élève d'un certain Karl Czerny. Alors, s'il y a des pianistes parmi nous, c'est peut-être un nom que vous connaissez, puisque le Karl Czerny, il est l'auteur d'exercices pour le piano. Deux présentations à la fois ? À la fois, c'est inaudible ? Ah non, je suis tout seul. Est-ce que c'est le cas aussi pour d'autres personnes? Vous avez le son en double? Je m'arrête sur Nicole pour savoir si elle a ce problème-là. Est-ce que d'autres personnes l'ont? Est-ce que vous voulez bien me le dire? Ou c'est vraiment que Nicole? Donc, en tout cas, ce Karl Czerny, il organise en 1823 une rencontre entre Beethoven, qui a alors 53 ans, il va mourir 4 ans plus tard, et le tout jeune Franz Liszt, qui a alors 12 ans. Beethoven était alors totalement sourd, on ne sait pas ce qu'il a pu entendre du jeu de Franz Liszt, mais cette rencontre a été très importante pour Liszt, et il va être un des plus fidèles interprètes des œuvres de... Merci. Des œuvres de Beethoven, et pas seulement de ses compositions pour piano. Voilà, je vous en dis plus tout à l'heure à propos de ces... de ce rapport entre Beethoven et Franz Liszt. En tout cas, au bout de 18 mois de leçons, 18 mois seulement avec son professeur Czerny, eh bien ce dernier reconnaît tout simplement qu'il n'a plus rien à apprendre à son élève et qu'il maîtrise alors toute la technique du piano. Il part ensuite en tournée de ville en ville pour des séries de concerts à n'en plus finir, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Aussi, lorsque son père va mourir subitement en 1827, il a 16 ans, il abandonne sa carrière de pianiste virtuose et il s'installe à Paris avec sa mère. Il donne des leçons de piano en se laissant aller à une vie beaucoup plus désordonnée, ainsi qu'à ses premiers amours. Et ces années sont décisives pour sa formation culturelle et intellectuelle. Il maîtrise très rapidement la langue française qu'il va employer toute sa vie, parallèlement à l'allemand. Près des trois quarts de ses lettres, sur les 6000 qu'il a écrites, sont rédigées en français. Il fera alors connaissance avec l'élite de la nation. Il rencontre Berlioz le 4 décembre 1830, qui devient son ami, on revient dessus juste après sur cette rencontre. Il entend Paganini, le virtuose du violon, la première fois le 9 mars 1831. C'est ce concert, entre autres, qui va lui donner l'idée de créer une technique d'exécution transcendantale pour son instrument, le piano, et de tenter sans cesse d'en repousser les limites. Il dira ceci, « Car voyez-vous, mon piano, c'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate. C'est moi, c'est ma parole, c'est ma vie, c'est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans mon cerveau au cours les plus brûlants de ma jeunesse, aux jours les plus brûlants de ma jeunesse. » Retenez que c'est vraiment en entendant Paganini, le virtuose du violon, qu'il décide de repousser les limites de son instrument, le piano. Il va donc tenter d'entrer au conservatoire, mais il est refusé par Cherubini sous prétexte qu'il est étranger. Je voudrais revenir quelques instants sur sa rencontre avec Berlioz, puisqu'elle va nous être très utile pour la suite. Oui, Czerny, ça parle à des pianistes, je vois, hein ? Effectivement. Donc, nous sommes la rencontre avec Berlioz. Le 4 décembre 1830 à Paris, Franz Liszt a alors 19 ans, il rencontre Berlioz. Le lendemain de cette rencontre est créée la symphonie fantastique de Berlioz, qui va énormément compter dans la carrière et dans la vie musicale de Franz Liszt. Voici ce qu'écrira Berlioz dans ses mémoires à propos de cette rencontre. Il dit ceci, je le cite. « Ce fut la veille de ce jour que Liszt vint me voir. Nous ne nous connaissions pas encore. Je lui parlais du Faust de Goethe qu'il m'avoua n'avoir pas lu et pour lequel il se passionna autant que moi bientôt après. Nous éprouvions une vive sympathie l'un pour l'autre et depuis lors, notre liaison n'a fait que se resserrer et se consolider. Il assista à ce concert. » Où il se fit remarquer de tout l'auditoire par ses applaudissements et ses enthousiastes démonstrations. Le titre original de cette symphonie fantastique de Berlioz, c'est celui-ci, c'est « Épisode de la vie d'un artiste, symphonie fantastique en 5 parties ». Et une de cette partie s'intitule « Le bal ». Écoutez ce premier extrait, ce sera important pour la suite. Liszt est enthousiasmé par cette œuvre et il décide d'en réaliser un arrangement pour le piano. Et ce sera là la toute première œuvre qu'il va adapter pour le piano. Et cette activité d'arrangeur ou de transcripteur d'œuvres connues n'est pas secondaire, puisque sur le nombre total d'œuvres écrites par Franz Liszt, 678 selon le classement effectué par Humphrey Sirle, 351, plus de la moitié donc, le sont au titre de transcription, d'adaptation, de paraphrase ou d'arrangement. On trouve des transcriptions d'œuvres d'autres compositeurs, comme c'est le cas ici avec la Fantastique, mais également des transcriptions de ses propres compositions. C'est-à-dire qu'il compose des œuvres pour orchestre et parfois il en réalise l'adaptation pour le piano. Cela fait dire à certaines personnes mal intentionnées qu'il se copiait lui-même. Ces personnes cherchaient ainsi à minimiser le Franz Liszt compositeur et effectivement, il va avoir beaucoup de mal à se faire considérer comme un compositeur à part entière. On voyait en lui un des meilleurs pianistes de son temps, mais certainement pas un compositeur significatif ou important. Il publie donc sa transcription pour piano de la Symphonie fantastique de Berlioz en 1834, alors que la partition originale de Berlioz pour orchestre va être éditée 11 ans plus tard. Ce qui veut bien dire que l'adaptation pour piano de Liszt est éditée avant la version originale de Berlioz. Et cette adaptation pour piano, elle connaît alors un très grand succès, car la musique se diffuse alors beaucoup par ses adaptations pour le piano, qui sont ensuite jouées dans les bonnes familles qui possèdent très souvent un piano. C'est alors ainsi que la musique se diffuse, on n'a encore pas les radios et les systèmes d'enregistrement pour pouvoir profiter de la musique. Donc ces transcriptions pour le piano permettent de diffuser des œuvres pour orchestre au piano. Franz Liszt est certainement un des plus grands, voire le plus grand arrangeur de tous les temps. Il permet ainsi au public de cette époque de découvrir des œuvres capitales de l'histoire de la musique, comme les 9 symphonies de Beethoven, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il va transcrire pour le piano. Donc vraiment, il défend ce répertoire et on le connaît d'abord dans sa version pour piano et il les joue en concert. Il transcrit également des mélodies de Schubert, des airs d'opéra de Wagner, donc qui au départ sont chantés avec l'orchestre, et bien il les adapte uniquement pour le piano, des œuvres pour orgue de Bach et de beaucoup d'autres compositeurs. Il a écrit des transcriptions toute sa vie, il avait un véritable goût pour cela et en plus, elles se vendaient très bien, alors que ses propres compositions, eh bien, beaucoup moins. Voici un extrait de ce même bal que l'on a entendu, le Symphonie fantastique de Berlioz, mais cette fois-ci arrangé pour le piano par Franz Liszt. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous faire écouter cette transcription pour piano? Eh bien parce que dans sa Totendance, il y a quelque chose de cet ordre-là, de partir d'un matériel musical existant pour en proposer autre chose. Et ce matériel musical dans la Totendance, c'est le Dies Irae. Alors lorsque l'on parle du Dies Irae grégorien, on parle bien d'un motif musical, de notes de musique connues ou reconnues quand on les entend. Par exemple, dans les Requiem, lorsqu'il est question du Dies Irae, le jour de la colère de Dieu, eh bien, le compositeur va glisser ce motif musical connu de tous du Dies Irae, bien sûr en l'adaptant à son propre style de composition, mais nous retrouvons toujours les mêmes notes. Nous allons à nouveau nous tourner vers Berlioz, qui lui aussi a fait appel à ce motif du Dies Irae, toujours dans sa symphonie fantastique, dans la partie appelée « Le songe d'une nuit de sabbat ». Voici ce motif du Dies Irae que vous avez certainement déjà entendu ou vous connaissez peut-être. « pourquoi Franz Liszt choisit-il ce thème du Dies Irae pour sa danse macabre? En 1838, il est à Pise, et c'est en contemplant la fresque « Le triomphe de la mort » de Francesco Traini au Campo Santo qu'il a une première inspiration selon ses dires. Le thème grégorien du Dies Irae lui vient aussitôt à l'esprit et il ébauche alors ses premières esquisses. Et ce n'est qu'en 1849, soit près de 10 ans plus tard, qu'il va terminer cette composition. Et comme toujours chez Franz Liszt, il va retravailler à nouveau sa partition en 1853 et aussi en 1859. Donc ce thème du Dies Irae, pa 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 pom pom. Voilà, vous l'avez un peu dans l'oreille? Eh bien, on va le retrouver déjà au tout début de la Totten Dance, qui va dès le départ, en plus, être répétée de plusieurs façons. Je vous propose d'écouter une première fois ce tout début de cette Totten Dance. Amusez-vous à repérer le Dies Irae ici ou là. Et puis on l'écoutera une seconde fois cet extrait tous ensemble, parce que j'ai des petites choses à vous indiquer. Le piano entre tout seul d'abord, suivi par l'orchestre qui présente le Dies Irae dans le grave. Voici le début de la Totten Dance de Franz Liszt. Bien, dans ce départ, on a déjà entendu pas moins de 6 présentations différentes du Dies Irae. 6. On va les détailler ensemble. On a le piano qui entre seul et c'est l'orchestre dans le grave qui présente ce thème du Dies Irae une première fois en entier. Puis le piano va présenter une grande montée et une grande descente et à la fin de sa descente, il fait entendre dans le grave les 4 premières notes du Dies Irae. Pam, 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 pam. Et c'est tout. Puis nouvelle montée et descente du piano qui à la fin fait entendre toujours les 4 premières notes. Pom, 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 pom. Pas en entier, mais on a le début. Puis il va répéter ces 4 premières notes du Dies Irae, mais 2 fois plus vite. Pa, 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 pom. Une seconde fois, 2 fois plus vite. Pom, 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 pom. Et à nouveau, le piano repart pour une grande montée et une grande descente. Et c'est alors l'orchestre qui fait entendre le Dies Irae pendant que le piano au-dessus crée un effet de tremblement. Pour cela, il alterne des accords plaqués à la main droite et à la main gauche, enchaînés de façon très rapide, mais le Dies Irae est bien à l'orchestre. Alors si on résume, on a le Dies Irae d'abord dans l'orchestre, dans le grave. On l'a ensuite présenté par le piano à la fin de sa grande montée, de sa grande descente, juste les 4 premières notes. Ensuite, une seconde fois les 4 premières notes, 2 fois plus vite au piano, 2 fois plus vite au piano, mais seulement le début, pa 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 pam, il prend que les 4 premières notes. Et puis enfin, à l'orchestre, pendant que le piano crée un effet de tremblement au-dessus. Un peu plus d'une minute de musique et déjà 6 présentations différentes du Dies Irae, et nous ne sommes que dans l'introduction. On réécoute? Je vous les indique. Attention. Une deuxième fois à la fin, attention. Deux fois plus vite. Et attention à l'orchestre. Et le piano dessus. Je pense que vous commencez à percevoir un tout petit peu mieux ce que va être cette œuvre, cette grande paraphrase sur ce Dies Irae grégorien. C'est une succession de 6 grandes variations et nous allons voir la capacité inouïe de Franz Liszt de jouer avec seulement 4 notes, et ce pendant plus de 15 minutes. Cette partition, elle est connue comme l'une des partitions les plus difficiles de tout le répertoire pour piano. Alors, on va pas détailler chaque présentation du Dies Irae, mais j'ai choisi de vous faire entendre quelques exemples significatifs. Cette ottendance, elle se divise en 6 variations. C'est indiqué sur la partition, mais c'est pas toujours facile de les repérer, de savoir quand nous passons d'une variation à une autre, sachant qu'à l'intérieur d'une variation, il joue de façon différente avec ce motif. Donc, il y a énormément de variations dans cette composition. En fait, cette ottendance, cette danse macabre, se présente en un seul grand mouvement. Alors vous allez travailler un peu à présent, rien de difficile, juste après ce que l'on a entendu, qui est donc l'introduction, nous arrivons à la première variation. Comment ici savons-nous que nous allons passer à la première variation? Eh bien ici, Francis va nous aider. Écoutez, c'est tout simple, comment s'y prend-il pour nous faire comprendre que nous arrivons dans la première variation? Si vous avez la réponse, eh bien vous notez dans le chat. Et bien sûr, on est entre nous, on a tout à fait le droit de se tromper, rien n'est grave, on est là pour s'amuser et pour essayer d'écouter des petites choses. Donc comment est-ce qu'il arrive à nous amener à cette première variation? On y va? C'est parti. Alors, est-ce que vous avez une idée de la façon dont il a fait sa transition entre cette introduction et cette première variation? Eh bien, c'est tout à fait simple, hein. C'est qu'en fait, il utilise un temps de silence. C'est très simple, c'est tout à fait efficace pour nous renseigner que nous passons d'une partie à une autre. Voilà, merci. Simplement, les silences. Les compositeurs les utilisent beaucoup pour nous indiquer. C'est des sortes de poteaux indicateurs qui nous renseignent sur la façon dont il va organiser toute sa musique. Exactement, c'est bien un temps de silence. Voilà, ça s'entend facilement. Donc, profitez de ces temps de silence. Et ces temps de silence, ils permettent simplement, quand la musique s'arrête, de dire « Oh, bah, quelle est la suite? Qu'est-ce que c'est ?» Et ça crée tout de suite des césures qui sont importantes à écouter et à entendre. Et simplement, vous pouvez vous dire dans votre tête « silence ». Et après, vous pouvez enchaîner sur la suite. C'est très efficace. Faites vraiment attention à généralement tous les silences dans la musique que vous écoutez, et encore une fois, le meilleur moyen de les entendre, c'est au départ de vous le dire. Dites-vous silence, et puis quand vous arriverez ensuite à les entendre sans les formuler, vous allez les sentir et les vivre. C'est vraiment une suspension, un temps de silence. Ici, on est là en se disant « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand ça arrive, c'est très rapide, hein, mais c'est très, très efficace. Je vous fais réécouter juste une petite fois pour que vous le sentiez vraiment. Pardon, il est là. Voilà, il est très présent, il est vraiment très puissant et très présent, ce silence. On va s'intéresser au passage qui est juste après ce silence. Est-ce que vous voulez bien, dans le chat, en un seul mot, me dire quel sentiment, quelle impression, quelle idée vous fait la musique que vous entendez alors? Le principe est tout simple, vous ne réfléchissez pas, le premier mot qui vous vient sera le bon. Ça peut être une couleur, une intention, une sensation, une idée, la première chose. Vous entendez cette musique et vous demandez « qu'est-ce que ça me fait cette musique ?» Quel effet elle a sur moi? Et vous l'écrivez dans le chat sans réfléchir. Donc du coup, il n'y a pas de bonne réponse. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui écoutez. Donc la réponse que vous allez proposer, elle sera juste parce que c'est la façon dont vous écoutez. Le compositeur, il écrit une partition, il n'est pas responsable de l'effet que ça va avoir sur vous. Hein, de l'effet agréable ou désagréable dans certains cas. Mais en tout cas, donc, on a cette liberté d'écoutant quand on écoute la musique, parce qu'on est toujours un peu inquiet de se dire ce que j'entends bien, ce que j'entends, est-ce que je suis bien, je respecte. Non. Le compositeur vous propose une musique et vous la recevez avec votre avis. C'est la même chose quand vous lisez un livre. Un livre vous fait un certain effet. L'auteur n'est pas responsable de ce qu'il écrit, de l'effet qu'il produit. Les musiciens, c'est la même chose. Donc, toutes vos réponses seront justes. D'accord ? Donc, un adjectif, un mot, et puis comme ça, on va voir un petit peu si quelle couleur a ce passage. D'accord ? Allez, on fait ce petit exercice et on est juste après ce temps de silence. Allons-y. Un mot pour décrire la musique. Ok, je vous le remets une seconde fois pour que vous ayez le temps de le noter. Alors, on a des mots comme, merci déjà de répondre, on a des mots comme solennel, une hésitation, une grande douceur, une colère divine, passage, suspense, intériorisation, de la gravité. Vous voyez toutes les couleurs que l'on entend et pourtant on est tous différents. Pourpre, voilà. Pour Alinoé, c'est carrément une couleur. Peur, il y a quelque chose qui est un petit peu effrayant. Donc on a de la colère, de la douceur pour Muriel, de la colère pour Nicole, sombre. D'accord ? Voyez, comme ça, quand on le partage ensemble, ça nous fait un petit panorama de la façon dont on peut écouter ce passage précis. Interrogation, ça va un petit peu avec suspense. Vous voyez qu'on est globalement un petit peu, on pourrait faire des groupes de couleurs. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce passage notre motif du dies irae ? Parce qu'il était bien là, il est au piano, mais avec une couleur un peu moins flamboyante que l'introduction. Il semble ici un peu plus triste, un peu plus calme, un petit peu plus replié sur lui-même. On l'écoute à nouveau et je vous indique où est le dies irae dans le passage que l'on vient d'entendre. Parce que là, je vous ai focalisé sur la couleur, mais il était bien présent toujours notre dies irae. Écoutez. Pam, pam, pam. Voilà, quelque chose de plus triste, de plus opaque, de brume épaisse, pourpre, voilà, pesanteur inquiétante. Voilà, mais c'est une nouvelle couleur qu'il ajoute à ce dies irae qui est toujours là. Hein. Il est un petit peu caché au milieu des notes, mais il est bien là. On continue à nous amuser avec un nouvel extrait. Nous allons jouer avec nos oreilles. D'abord, une première écoute avec toujours cette même question. Saurez-vous retrouver le dies irae ? On pourrait presque appeler cette composition à la recherche du dies irae tellement il le glisse de partout. On écoute ? Allons-y. Alors, est-ce que vous avez pu retrouver notre pom 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 pom? Eh bien, on l'a. D'abord, c'est une présentation par certains instruments de l'orchestre et ensuite au piano. On va le détailler. Le dies irae, il est caché d'abord dans les graves présentés par les violoncelles et les contrebasses et il est joué en pids. C'est cette technique de jeu qui consiste à frotter les cordes avec le doigt au lieu de les frotter avec l'archet. Le dies irae, il est étiré, il est allongé pendant qu'au-dessus, le basson et les altos présentent d'autres motifs. On écoute juste cette première présentation en PIDS. Je vous les indique. Ensuite, le piano fait exactement la même chose, mais on l'entend mieux parce qu'il est plus fort. Mais c'est exactement le même principe. Vous avez pu l'entendre. Alors on réécoute l'extrait complet avec à la fois les pides des violoncelles et des contrebasses, suivi par le piano. Au piano. Voilà pour cette nouvelle présentation du Dies-Irae avec un caractère, encore une fois, différent. Amusez-vous tout le temps quand vous écoutez de la musique à promener vos oreilles aussi, à pas toujours rester focalisé sur le Dies-Irae, c'est bien de le repérer, et puis après aussi d'aller profiter de tout ce qu'il peut avoir autour. C'est pour ça que la proposition d'aller écouter cette pièce en entier une ou deux fois avant le concert en direct de la semaine prochaine, ça peut être judicieux parce que vraiment, il est vraiment de partout et vous allez pouvoir vous amuser à le repérer. J'aimerais qu'on fasse une petite pause dans les extraits musicaux parce que j'aimerais vous parler de cet instrument, le piano. On a évoqué tout à l'heure le Franz Liszt virtuose de son instrument, et bien évidemment, cette virtuosité n'est possible qu'avec un instrument qui permette cette virtuosité. Et là encore, Franz Liszt va jouer un rôle de tout premier plan. Il faut savoir que les pianos dont dispose Franz Liszt n'ont pas alors la résistance de ceux d'aujourd'hui. Être pianiste virtuose à son époque, eh bien ça demande de pouvoir gérer des choses auxquelles il nous est un peu difficile de penser. Par exemple, il faut savoir gérer un concert où les cordes du piano se mettent à sauter les unes après les autres, comme ce fut le cas pour lui lors d'une soirée de gala chez la tsarine Alexandra de Russie. La plupart des pianistes de la première moitié du XIXe siècle considèrent ce genre d'incident comme l'un des risques inhérents à leur profession. Franz Liszt, lui, va trouver une solution et il résout ce problème en demandant parfois d'installer deux pianos sur l'estrade, ce qui lui permet de passer d'un instrument à l'autre pendant le concert. S'il y en a un qui fonctionne plus, les cordes sautent, eh bien il a un deuxième. Liszt et sa famille arrivent à Paris en 1823 et vont rencontrer rapidement les frères Erard, Sébastien et Pierre, qui sont fabricants de pianos. C'est bien la marque Erard, hein, pour les pianistes ou ceux qui connaissent un peu les pianos. Et une véritable amitié va naître alors, et cette amitié ne va jamais se démentir. Les frères Erard, comme tous ceux qui ont entendu le jeune prodige Franz Liszt, reconnaissent immédiatement son talent. Ils vont lui offrir un nouveau piano, et pas n'importe lequel. C'est un de leurs plus récents modèles à 7 octaves. Donc, octave, ça correspond au nombre de touches, hein. Un octave c'est 7 notes, donc il a 7 octaves ce piano, et il est en plus muni de leur tout nouveau système à double échappement qu'ils viennent tout juste de breveter 2 ans avant leur rencontre avec Franz Liszt. Le père de Liszt commente ce nouvel instrument dans une lettre du 7 mars 1824 qu'il adresse à Czerny, l'ancien professeur de son fils, où il lui dit ceci, je le cite. La façon de jouer est facile et cependant, on peut donner au son, qui est excellent, toutes sortes de variétés. En un seul mouvement, sans enlever la main, on peut faire sonner la corde de façon faible ou puissante, aussi souvent qu'on veut l'entendre. C'est réellement étonnant. Il y a seulement 3 pianos de ce genre, on fabrique le 4e pour mon fils. Donc on voit que c'est un papa qui est très fier et... L'invention dont il parle dans cet article, elle est vraiment au centre de tous les progrès, c'est celle du double échappement des pianos Erard que je vais vous présenter. C'est un mécanisme connu bien sûr aujourd'hui qui permet de répondre d'abord à une première exigence qui est celle du maintien du son. Pour les ancêtres du piano, les pianos plus anciens souffraient de l'impossibilité de soutenir le son après son émission, c'est-à-dire que quand vous frappez la corde, de pouvoir tenir le son. Et le mécanisme à répétition de Sébastien Erard permet aussi à une note d'être répétée sans que la touche ne doive revenir à sa position de départ. Je vous explique. Auparavant, si vous vouliez mettre une note sur le piano, vous appuyez sur la touche et pour enclencher une autre note, il fallait relever complètement le doigt pour à nouveau pouvoir émettre un son. Ce double échappement permet au pianiste d'avoir juste à relever le doigt et de tout de suite pouvoir appuyer sur la touche rapidement et de pouvoir émettre un son. On voit tout de suite les conséquences de cette nouvelle possibilité de pouvoir réenclencher un son plus rapidement, c'est l'accès à une virtuosité et une possibilité de rapidité d'exécution qui était alors inédite. Voilà en quoi consiste ce système du double échappement. C'est le prototype de tous les mécanismes ultérieurs des pianos encore en vigueur aujourd'hui. Donc c'est une vraie révolution d'instrument. On s'intéresse aussi à l'époque à l'étendue du clavier. On ajoute des touches, ce qui permet une nouvelle expressivité. Et là encore, lorsque Franz Liszt arrive à Paris, il joue sur un piano Erard qui présente 7 octaves, alors que les pianos plus anciens avaient une étendue de 5 à 6 octaves ou 6 octaves et demi maximum, mais 7 jamais. Cet ajout de touches supplémentaires est accueilli de façon mitigée par la presse. Voici ce qu'on a pu lire dans l'Allgemeine Musikalische Zeitung, une revue allemande, après un concert de Liszt le 8 février 1824 dans les salons Erard, je le cite. Il fut nécessaire d'interrompre au milieu d'un morceau pour hausser aussi bien que possible la corde des notes qui avait perdu un demi-ton et de remplacer les cordes cassées. Imaginez-vous ce non-sens, permettre à l'étendue du pianoforte de ne pas avoir de limite, trouve son origine chez les exécutants qui croient obtenir par là de nouveaux effets. Ou peut-être encore plus avec les facteurs de piano qui cherchent par ce moyen à obtenir la préférence des acheteurs de leurs instruments. Le fonctionnement des maisons de piano, que ce soit Pleyel, qui était aussi un autre grand fabricant de piano, ou Erard est alors bien particulier, il possède des salons qui sont des véritables salles de concert miniatures bâties pour mettre en valeur le piano maison. Et les deux maisons de facture de piano, Pleyel et Erard, fonctionnent comme de véritables entreprises qui emploient chacun des douzaines d'ouvriers hautement spécialisés, des charpentiers, des peintres, des tourneurs, des ferronniers. Et une soigneuse application du principe de la division du travail permet à l'une et à l'autre de fabriquer une centaine au moins de pianos par an. Erard se vantait de pouvoir expédier ses pianos partout en Europe et il eut largement recours aux canaux et aux voies navigables du continent pour faire acheminer ses instruments jusqu'au fin fond du monde civilisé. Un concert à la salle Pleyel ou à la salle Erard était donc beaucoup plus qu'une affaire purement musicale. C'était aussi une réunion d'affaires où les investisseurs se réunissaient pour voir quelques virtuoses à la pointe du succès cautionner publiquement le dernier modèle devant un parterre de plus de 400 connaisseurs. Lorsque Frédéric Chopin arrive à Paris, il choisit de faire ses débuts à la salle Pleyel. Liszt, pour sa part, se produisait invariablement à la salle Erard. Et Franz Liszt, avec un arrangement que l'on peut appeler de commercial, il jouerait sur des pianos Erard, moyennant quoi ce dernier se chargerait de les expédier aux destinations voulues. Il est alors présenté comme un artiste Erard. C'est un des premiers artistes sponsorisés. Et il joue aussi un vrai rôle dans l'amélioration des pianos, puisqu'il ne manque pas de donner son avis, d'avancer des solutions. C'est aussi une collaboration très proche, puisqu'il s'appréciait beaucoup avec les frères Erard. On va écouter un piano Erard qui date de 1850, qui est donc construit avec ce système du double échappement, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de la couleur des pianos sur lesquels Franz Liszt jouait. On écoute un extrait de la paraphrase de concert sur Rigoletto de Verdi. Tiens, c'est encore une adaptation d'une œuvre connue. C'est la paraphrase de concert sur Rigoletto de Verdi. Donc, il a pioché quelque chose dans le Rigoletto et il l'a transcrit pour le piano. Il est interprété ici par Cyril Huvé sur un piano Erard. Écoutez. Et voici le même extrait joué sur un piano actuel par François-René Duchâble. Et on entend bien que l'organologie a continué depuis à évoluer. Le système est toujours le même, mais la qualité du son a changé. Il est ici beaucoup plus rond, beaucoup plus legato. Thank you. Je vous mettrai ces deux liens dans le replay que vous puissiez peut-être mieux apprécier les subtilités de ces deux instruments. Donc dans le replay, comme je vous le disais tout à l'heure, ce replay enrichi, je vous mettrai les deux liens pour que vous puissiez les écouter. La carrière de Franz Liszt couvre les deux moitiés du siècle. Elle peut donc permettre, simplement par l'étude des pianos qu'il a possédés, d'obtenir des informations sur l'histoire des instruments, de ses progrès techniques et de sa réception au cours du 19e siècle. Il y a donc une conjonction, un point de rencontre entre une esthétique, le développement technique d'un instrument et les recherches hardies de ces individus créateurs que furent les pianistes virtuoses comme Franz Liszt, qui vont motiver les facteurs de piano à innover et à chercher de nouvelles solutions pour répondre à leurs nouveaux besoins de virtuosité pour Franz Liszt. On vient à la musique, on va s'amuser encore avec la Totten Dance, et vous allez devoir faire deux choses en même temps cette fois-ci. Tout à l'heure, je vous ai demandé de mettre en un mot ce que la musique suscitait pour vous, et ensuite de repérer le dies irae. Et bien là, vous allez essayer de faire les deux en même temps. D'abord de repérer le dies irae où il est, et ensuite, en un mot, peut-être d'écrire dans le chat ce qu'il vous fait, votre ressenti. On continue ? Allons-y. Le dies irae, et quelle impression il vous fait en un mot ? Voilà, il s'est caché un petit peu au milieu de toutes ces notes très portées du bout des doigts, pratiquement. Il y a quelque chose de très délicat, de très peut-être de très liquide, d'aquatique dans cet extrait que nous venons d'écouter. On va le réécouter au départ, pour que je puisse vous indiquer de façon peut-être un tout petit peu plus précise où il est. Voilà, évanescent, il y a quelque chose comme ça de délicat, en tout cas d'interrogatif peut-être. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans ces couleurs-là, en tout cas du bout des doigts, des gouttes de pluie, vous voyez, voilà, des clochettes, il y a quelque chose qui s'égrène, style Chopin, voilà, on a quelque chose de, voilà, vous avez entendu les gouttes de pluie, voilà, je disais, il y a peut-être quelque chose d'aquatique ou d'aérien pour Jacqueline, voilà, ça peut être aussi dans la légèreté, un vol de papillon, très bien, on peut être complètement là-dessus, imaginez un papillon qui puisse se poser comme ça délicatement sur des fleurs, on peut être absolument comme ça. Est-ce que vous avez pu entendre ou repérer le dies irae ? Pam, 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 il se glisse, hein, absolument, un petit peu de partout, aube rosée, une chute, on le réécoute. On a dit autre chose, on commence. Il dit autre chose. À la fin de notre extrait, il était cité. Donc il joue aussi avec le rythme et la présentation. Une autre présentation, même exercice, vous cherchez le Dieciré, et puis vous écrivez en un mot. Ça me fait penser beaucoup à Debussy, oui, il y a quelque chose de Debussy dans le bout des doigts, absolument. Absolument, on peut avoir cette couleur-là. On fait un autre exemple de la même façon, un envol, complètement différent. On cherche le Dieciré et un mot pour le qualifier. Quelque chose de beaucoup plus percussif ici, il joue avec le rythme, pim pam 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 pam, avec une sorte d'écho. En plus, au piano, le caractère est complètement différent, on a presque quelque chose de militaire, je vous le refais écouter une petite fois. En galop. Colère, agitation, énervement, agacement, marche rapide, cadencée, vous voyez, voilà, tous ces mots. En le partageant ensemble, on se rend compte qu'on est tout le temps à peu près dans le même champ lexical. Le premier, on était plus distant, là, on est plus... Un côté péplum, absolument. On a aussi ce côté-là un petit peu imposant, accélération, effectivement, aussi. Et on arrive ensuite un peu plus loin à la cadence du piano. La cadence, c'est le passage que l'on trouve souvent dans la forme concerto. Vous vous rappelez, c'est le moment où le piano, il prend tout seul la parole. C'est le lieu où on peut admirer toute sa virtuosité, toute la virtuosité de l'interprète. Cette cadence, elle s'appuie ici uniquement sur le motif du Dieciré. Je vous le fais écouter, et puis je vais essayer de vous l'indiquer au fur et à mesure. Vous allez voir, il est là très, très présent. Et là, c'est le piano qui est tout seul. Alors, on n'est pas dans un concerto, mais vous voyez qu'il réserve un moment de cadence, là c'est vraiment le moment d'exposition maximale et du soliste, et puis c'est là où on attend de voir à quel point il est virtuose, c'est un petit peu un espèce de climax, de moment de tension pour l'interprète. Alors attention, on l'a eu. Et ça continue ensuite de la même façon. C'était que des successions des quatre premières notes du Dieciré. De ti, pam, 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 pam. Après cette cadence, quelques mots sur le Franz Liszt, le pianiste virtuose, parce qu'il occupe, lui, là encore, une place à part dans l'histoire de la musique. Entre l'âge de 27 et de 37 ans, il est sur les routes pendant 10 années, il va donner des concerts et il va aller partout en Europe, dans le sud de l'Espagne, au cœur de la Russie, jusqu'aux rives du Bosphore. C'est une vie agitée avec d'incessants changements qui séduit alors complètement le caractère nomado-tsigane de Franz Liszt, qui a besoin de variété et qui révèle déjà son incapacité à adopter une patrie définitive, et il ne changera jamais sur ce point. Lorsqu'il était jeune, on parlait de lui comme du nouveau Mozart. Comme on l'a dit, c'est à Paris qu'il s'est fait connaître comme pianiste. Il est également l'inventeur du récital. Il est le père de ces artistes aujourd'hui qui sillonnent le monde et qui vont de récital en récital. Il a été le premier à le faire. Il est également le premier à jouer tout un programme par cœur. Le premier à pouvoir présenter un répertoire qui va alors de Jean-Sébastien Bach à Frédéric Chopin, ce qui couvre donc à ce moment-là une grande partie de l'histoire de la musique. C'est quelque chose qui nous semble naturel aujourd'hui pour un pianiste de concert, mais qui ne l'était pas du tout à l'époque. Il va se soucier également de l'emplacement du piano sur scène, de façon à ce que l'acoustique soit la meilleure possible pour le public. Lorsque un de ses concerts est annoncé dans une ville, comme par exemple à Lyon, on a des témoignages de sa venue, eh bien c'est alors un véritable événement, la foule l'accueille en hurlant et le public fait la queue des heures juste pour l'apercevoir. C'est donc une véritable star dont chacun des concerts est un événement. À la même époque de Franz Liszt, il existe alors un autre grand pianiste très célèbre qui s'appelle Thalberg. je vous propose d'aller pousser la porte d'un salon parisien dans les années 1830 pour voir comment ça se passait. La princesse Belgiojoso décide d'organiser un duel dans son salon parisien le 31 mars 1837 afin de déterminer qui, d'entre Franz Liszt ou Thalberg, est le meilleur pianiste. La presse s'empare de l'événement et l'on peut lire dans le journal de la Gazette musicale du 26 mars 1837 ceci, je le cite, « Le plus puissant intérêt sera sans contredit le concert simultané de deux talents dont la rivalité agite en ce moment le monde musical et tient la balance indécise entre Rome et Carthage. Messieurs Liszt et Thalberg occuperont tour à tour le piano. » Alors on peut résumer le résultat de l'affrontement en deux formules. L'une parue le lendemain du concert dans le journal des débats qui écrivit ceci. « Ainsi donc, deux vainqueurs et pas un vaincu. » Et enfin l'autre formule que l'on doit à la princesse elle-même et qui est très parlante, je la cite. « Thalberg est le premier pianiste du monde. Franz Liszt est le seul. » Thalberg est le premier pianiste du monde, Franz Liszt est le seul. Dans le replay que vous recevrez demain, je vais vous ajouter une lettre de l'écrivain Théophile Gautier, qui date de 1844, où il raconte dans un texte un des concerts de Franz Liszt auquel il assiste. Vous allez voir, il est absolument émerveillé de ce qu'il entend. Je vous lis la première phrase. « Il est impossible de donner avec des mots l'idée d'une pareille exécution. » Voilà, vous pourrez lire ce texte dans le replay que nous vous enverrons dès demain. C'est un texte très impressionnant et qui permet de se rendre compte de la puissance immense de ce virtuose qui était absolument phénoménal. On vient à la musique avec trois derniers extraits que j'ai regroupés sous le titre « Comment faire entendre le Dies Irae à la manière de ?» À la manière de. Un premier exemple que l'on pourrait appeler « À la manière de Jean-Sébastien Bach ». On va entendre une entrée fuguée en canon présenté au piano. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, il suffit d'écouter, c'est très simple. Il fait d'abord entrer le début du Dies Irae. Et avant qu'il soit terminé, eh bien, il le fait entrer à nouveau. Et puis, il le fait entrer une troisième fois, et puis une quatrième fois, et puis la phrase se termine, et à nouveau, on recommence. Donc, en fait, c'est en canon, c'est en décalé, et c'est à la manière de Jean-Sébastien Bach, puisque c'est une écriture dite en contrepoint, dont un des grands représentants dans l'histoire de la musique, c'est Jean-Sébastien Bach. Donc, le voici à la manière de Bach. Attention, c'est très rapide, les entrées. Soyez prêts. Allons-y. On recommence. Je vous le refais écouter parce qu'ils entrent de façon très serrée et on a presque du mal à les entendre entrer, mais ils sont vraiment superposés. C'est un très beau contrepoint. Ici, l'ambiance est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus introspective. Ce qui est très étonnant toujours, c'est qu'on parle toujours de nos quatre mêmes notes du Dies Irae, qui prennent des couleurs absolument différentes avec le talent et l'inventivité de Franz Liszt. Vous entendez à quel point la présentation change la perception et l'impression musicale. On le réécoute ? Tout en haut, les quatre sont entrés. On commence. Je vous fais écouter un autre contrepoint. Une autre façon de pouvoir se faire répondre les notes avec ce style d'écriture. Un autre passage, écoutez. « tout en bas. Vous avez pu entendre les entrées successives. Cette fois-ci, il prend un petit peu plus de temps, donc on a plus le temps de les entendre entrer. Encore une fois. Pardon. Première entrée. Deuxième entrée. Troisième. Voilà, mais c'est toujours notre thème du Dies-Irae. On va ailleurs pour une présentation que j'appelle à la romantique, de grandes phrases lyriques accompagnées par des arpèges. On est complètement ailleurs. À la romantique, allons-y. Voilà cette présentation à la romantique, très lyrique, très expressive. On a presque également l'impression d'un martèlement sonore, comme s'il voulait absolument nous faire entrer ce motif dans la tête de façon presque brutale. Et voici un dernier exemple de ce motif. Vous allez entendre quelque chose de scintillant, et ceci est dû à l'intervention très rapide du triangle, qui ajoute un côté populaire à ce passage, en tout cas identitaire, et qui pourrait faire penser à une danse traditionnelle avec l'accentuation des rythmes, et bien entendu avec Franz Liszt, on ne peut pas s'empêcher de penser aux célèbres danses hongroises. Écoutez, avec le triangle, on est toujours avec notre Dies-Irae depuis tout à l'heure. Voilà, quand je vous disais que le piano était extrêmement virtuose et que c'était une œuvre très difficile pour le piano, ici on en a un petit aperçu parce que ça demande vraiment une technique et une virtuosité très impressionnante. Voilà donc en quoi va consister cette Totentanz, c'est une paraphrase somptueuse autour du Dies-Irae. Contrairement aux œuvres qui associent le sentiment de mort au dépouillement, ici ces variations mettent au centre un piano concertant, ce qui explique sans doute pourquoi l'œuvre n'est que couleur vive, flamboyance, bâtie sur une solide architecture. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que les points qu'on a vus ensemble, ce sont bien sûr les différentes présentations du Dies-Irae, cachées à l'orchestre, au piano, à certains instruments, profitez des silences aussi, et puis promenez vos oreilles ailleurs aussi, n'écoutez pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Amusez-vous pendant le concert à repérer les différentes présentations de ce Dies-Irae, et si de temps en temps vous avez l'impression de le reconnaître, vous pouvez être à peu près certain que vous avez raison, parce que c'est vraiment le but de cette composition, présenter ce Dies-Irae avec des éclairages, des couleurs différentes. Dans le replay, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai des liens pour écouter cette œuvre en entier. Faites-le avant le concert, elle dure environ 15 minutes, mais faites-le vraiment, c'est-à-dire soyez pleinement disponible. Installez-vous bien, ne faites pas autre chose, mettez sur pause pendant l'écoute, revenez en arrière si besoin, prenez le temps de le faire, amusez-vous à promener vos oreilles, et n'écoutez pas que le piano, même s'il va tout faire pour attirer votre attention. Écoutez aussi l'orchestre autour, comment il s'amuse avec ce piano. Cette Totentanz, c'est une C'est l'une des plus remarquables compositions de Franz Liszt et sans compter sa plus belle réussite dans le domaine de la musique concertante avec ses deux autres concertos pour piano. Parmi les grands interprètes de cette œuvre, il y a le compositeur Rachmaninoff qui va l'interpréter plus de 40 fois lors de sa tournée de concert aux États-Unis à partir de 1939. Le compositeur Béla Bartók, hongrois comme Franz Liszt, trouvera remarquable cette œuvre puissante, parfois débordante, et il se reconnaît pleinement dans ce style percutant. Et je vous parle de Bartók parce que lors du concert de la semaine prochaine, le 23 novembre à 20h, nous entendrons aussi le mandarin merveilleux de Bartók. C'est un ballet pantomime qui commence lui aussi de façon percussive avec des sons répétés. Il y aura aussi dans ce concert trois compositions de Ligeti, Lontano, Atmosphère au pluriel, et son Ricercare pour orgue seul. Je vais vous dire un petit mot sur sa première composition, le Lontano, qui date de 1967. C'est une composition qui dure 11 minutes, et soyez pas étonnés parce qu'au départ, vous allez entendre une seule note, c'est le La bémol. Alors, avec cette note que l'on entend toute seule, on pourrait peut-être se dire que c'est l'orchestre qui est en train de s'accorder, pas du tout. Cette note seule, elle va se répandre peu à peu à tous les instruments avant de l'orchestre. Ligeti demande aux instruments d'entrer tout doucement pour obtenir un crescendo presque imperceptible. Et puis on aura une seconde note, un sol, qui va venir perturber cette ligne du La bémol. Puis une troisième et une quatrième qui s'ajoutent. Il va ajouter de plus en plus de notes pour produire des couleurs orchestrales inouïes. Tous les instruments entrent et sortent sans que l'on s'en rende vraiment compte et créent ainsi une masse sonore toujours en mouvement et qui est assez hypnotique. Cette musique parlera peut-être à certains d'entre vous qui auront vu le film Shining de Stanley Kubrick. On entend cette composition dans ce film. Les interprètes du concert à présent de la semaine prochaine, ce sera François Dumont au piano, Lucille Dolla à l'orgue pour la composition de Ligeti, ce sera l'Orchestre National de France dirigé par François-Xavier Roth. Voilà pour cette rencontre autour de la Tonton Dance. Nous avons deux autres rencontres qui sont prévues cette saison pour ce nouveau cycle Écouter la musique autrement. La prochaine, elle n'est pas pour tout de suite, elle sera pour le 16 mai. Et nous aurons l'occasion de parler du concerto pour piano numéro 5 de Beethoven. Et nous irons écouter de quelle façon dans chacun des mouvements il va bousculer cette forme du concerto. Le concert sera interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Emmanuel Axe au piano. Garantie de qualité. Et le 13 juin, c'est le très beau Requiem de Gabriel Fauré, et nous verrons ici comment Fauré s'y prend pour nous proposer en musique une vision de la mort qui est douce et apaisée. Ce sera l'Orchestre National de France et le chœur de la maîtrise de Radio France. Et dans ce même concert, donc à suivre depuis chez vous dans l'auditorium, nous pourrons écouter également le deuxième concerto de Franz Liszt, interprété par Alice Sarah Ott au piano. Donc vous pourrez écouter ce concerto de Franz Liszt et vous pourrez aussi avoir une vision du répertoire du Franz Liszt au piano. Alors je vais vous indiquer maintenant dans le chat les liens pour pouvoir réserver vos places pour ces deux nouvelles rencontres. Alors d'abord pour la conférence Beethoven et ensuite dessous vous avez pour la conférence Fauré. Donc je vous rappelle le principe, c'est toujours le même, vous réservez vos places, faites-le rapidement, comme ça ce sera fait. Et puis on vous enverra des mails de rappel pour vous connecter, on vous enverra le replay dès le lendemain, valable 30 jours, et vous pourrez écouter le concert ou alors acheter des places pour venir écouter ces concerts. C'est quand même bien aussi les concerts en direct. Si vous pouvez venir, c'est bien, mais si vous êtes loin, France Musique est là pour ça, pour vous accompagner. Voici donc les liens, je vous les ai mis. Voilà, donc vous pouvez cliquer dessus, je vous les remettrai également dans le replay, comme ça vous aurez les liens pour réserver vos places, mais vous pouvez le faire dès à présent. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions autour de ce que l'on a pu voir ensemble? De toute façon, si vous en avez et que vous n'osez pas les poser maintenant, vous pouvez toujours me les poser plus tard. Je vous laisse mon mail ici. Voilà. Ça, c'est mon mail. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer dessus. Et si vous voulez prolonger un petit peu cette rencontre ou aller plus loin dans votre apprentissage de l'écoute et vous amuser, eh bien, écoutez, j'ai un très bon livre à vous conseiller qui est celui-ci, qui s'appelle « Écouter la musique classique, ça s'apprend ». C'est un livre qui est sorti en mois de septembre l'année dernière, édité par Erol. Et vous avez une cinquantaine d'extraits musicaux à écouter qui sont en lien avec ce livre. Donc, c'est des petits jeux d'écoute. Je vous explique un petit peu comment on l'a fait. Je vous donne des clés d'écoute et ensuite, vous allez les appliquer dans les œuvres à écouter. Il y a 50 extraits musicaux commentés. Donc, ça va vous permettre de jouer avec vos oreilles parce que vraiment, vos oreilles, c'est comme des instruments de musique. Hein. Il suffit de pratiquer, de vous entraîner et puis vous allez voir, vous allez arriver à rentrer encore plus facilement dans cette musique. C'est bientôt Noël, pensez-y. Et avec l'éditeur, on a souhaité que ce livre soit vraiment accessible à tous. On a mis un prix de 12 euros seulement. Donc, il se trouve partout à la Fnac, Amazon et surtout chez vos libraires. N'oubliez pas vos libraires, ce sont quand même eux qui font le travail de distribution des livres dans notre pays. Voilà, vous pouvez les commander ou la plupart l'ont aussi chez eux. Oui, le Dies Irae. Bah, le Dies Irae, son origine, c'est autour du 12e, 13e siècle, ou en tout cas musicalement, on va commencer à l'identifier de façon claire. Et ensuite, on va le retrouver dans toutes ses œuvres. Alors, au départ, beaucoup dans les Requiem, parce que toutes les œuvres qui tournent autour, bien sûr, de la mort, c'était la colère de Dieu. Et voilà. Mais l'origine, c'est 12e, 13e siècle, où on va focaliser sur ces notes précises, ce qui fait que dès qu'on les entend, vous avez entendu dans la Symphonie Fantastique de Berlioz, dès qu'on les réentend, tout de suite, ça interroge, ça parle de la mort et de ce Dies Irae. Donc c'est presque un leitmotiv que l'on reconnaît. Et Dieu sait si quand vous aurez écouté cette Totten Dance de Franz Liszt, vous l'aurez absolument et beaucoup dans l'oreille, vous l'oublierez plus jamais. Mais amusez-vous à aller repérer ce Dies Irae partout où il sera. Dès demain, on vous enverra le replay. On va le préparer parce qu'il y a un petit peu de travail. Et puis je vous mettrai aussi le lien donc pour écouter bien sûr cette œuvre en entier. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous à présent au mois de mai pour le 5e concerto de Beethoven. Là, c'est aussi une œuvre passionnante parce qu'il est aussi question de piano, mais c'est aussi Beethoven. Et puis, voilà, c'est une œuvre qui est très, très riche. Et puis, le très, très beau Requiem de Gabriel Fauré, qui est vraiment une œuvre tout à fait bouleversante et qui donne une nouvelle couleur à ces compositions du Requiem qui sont voilà, c'est vraiment une œuvre qui est très très touchante. Si vous la connaissez pas, vraiment profitez-en parce que ça c'est une œuvre qui est vraiment magnifique. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment elles sont toutes les bienvenues, vous avez mon mail, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.